J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.
Salut Thomas!
Salut Rémi!
Alors Thomas, est-ce que tu as passé de bonnes vacances?
Ouais, excellente.
Tu nous as manqué, tu sais, on a reçu des tonnes de courriers d'auditrices et d'auditeurs demandant mais pourquoi Thomas n'est pas là?
Mais je leur ai manqué, que veux-tu?
Ah ça, tu vois, c'est la célébrité. Mais ça doit être fatigant d'être si demandé au quotidien.
Tu vois, le plus prenant, c'est quand trois fois de suite on m'arrête dans la rue. Vous êtes Thomas Grosstête, vous êtes chroniqueur pour Plat de Résilience sur Radio B, c'est ça?
Mais en même temps, si ça t'arrivait qu'à Bourg-en-Bresse, ça irait. Mais même à Bagnoul-sur-Mer ou à Paris, tu te fais arrêter dans la rue.
Ça, on apprend vite à se faire connaître et à vivre cette vie de star, tu sais.
En parlant de star, on va parler d'un sujet star de l'actualité.
Les inondations?
Non.
Le conflit israélo-palestinien?
Pas tout à fait.
Conflit russe?
Presque. Tu brûles?
L'élection européenne?
Tu brûles fort là, attention.
Ah,
Sacha.
Je sais, la souveraineté européenne, je commence à te connaître.
Exactement Thomas, bien joué. Après avoir compris que notre modèle alimentaire était complexe, dépendant des énergies fossiles, qu'il ne rémunérait pas bien toutes les agricultrices et agriculteurs et qu'il impactait notre climat et nos écosystèmes, on doit
savoir s'il assure notre souveraineté alimentaire.
Mais Thomas, tu m'ôtes les mots de la bouche.
L'Europe est la première puissance agricole au monde. Forcément que notre agriculture est souveraine.
Et non Thomas, l'Europe n'est pas souveraine sur son alimentation.
Mais la souveraineté, c'est quand tu choisis toi-même ta politique pour pouvoir assurer ta sécurité alimentaire. C'est pouvoir se débrouiller pour se nourrir sans dépendre des autres. On décide tout seul de ce que l'on fait en Europe.
Oui, mais on compose forcément avec les autres. On importe de la nourriture, on importe de l'énergie, de la main-d'œuvre, du matériel pour notre agriculture et notre alimentation. Sans certaines de ces importations, on ne pourrait pas se nourrir de la même manière qu'aujourd'hui en Europe.
Mais l'Europe a une balance commerciale agricole positive.
Tu as raison, c'est vrai. Notre balance commerciale, donc à savoir le coût des importations alimentaires, moins le bénéfice de nos exportations, est positif. Donc ça veut dire que nos exportations nous rapportent plus que ce que nous coûtent nos importations. Et le bénéfice en 2022, à l'échelle de l'Europe, était de 58 milliards d'euros. C'est énorme.
Ah ouais, c'est pour ça que l'on dit de l'Europe qu'elle est la première puissance agricole mondiale. C'est elle qui a la plus grosse balance commerciale.
Exactement. C'est pour ça qu'on va parler dans cet épisode de souveraineté européenne et pas uniquement de souveraineté française. Car quasiment toute la politique agricole se décide au niveau européen.
Mais qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent ?
Les exportations qui nous rapportent le plus, ce sont les préparations à base de céréales. En gros, c'est la farine. Les produits laitiers, notamment la poudre de lait, le vin et la viande de porc.
Et du coup, qu'est-ce qui nous coûte le plus à l'inverse?
Premièrement, c'est le tourteau de soja pour nourrir nos vaches.
C'est des graines de soja broyées, ça hein?
Oui, c'est ça. C'est des graines de soja broyées qu'on donne en complément d'autres choses aux vaches. Mais il y a aussi les fruits. Des noix, on importe beaucoup de fruits tropicaux, des légumes frais, de l'huile, alors de l'huile de tournesol, de l'huile de palme, de l'huile de colza, et bien sûr des épices, du café, du thé et du cacao.
Ouais, le café, thé et cacao, ça coûte cher, mais on en importe peu en volume comparé au tourteau de soja.
C'est sûr, et c'est pour ça que la balance commerciale est un peu trompeuse. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout les quantités qu'on importe, la balance en volume et pas la balance commerciale. On ne produira jamais assez de thé, de cacao ou de café pour notre consommation, parce que ça ne pousse pas en Europe, tout simplement. Donc on continuera à en importer. Par contre, à quoi ça sert d'importer de l'huile de tournesol, des kiwis, des patates douces ou des tomates?
Ça pousse très bien chez nous. Et en plus, et en important, ça consomme de l'énergie qui entretient le changement climatique.
On importe en volume surtout du tourteau de soja pour nourrir nos vaches, des graines pour faire de l'huile, des fruits et des légumes.
On dépend donc surtout du Brésil pour nourrir nos vaches, car c'est un gros producteur de soja, il me semble.
Oui, et donc on a intérêt de bien s'entendre avec le Brésil. Sinon, les éleveurs et les éleveuses vont avoir de grandes difficultés pour nourrir leurs bêtes, et puis le prix de la viande risque d'exploser.
Ouais, le problème, c'est surtout qu'on dépend des autres pour des productions qu'on pourrait produire chez nous. Et qu'est-ce qu'on exporte en grande quantité au final?
Eh bien, c'est surtout des céréales et du vin. On exporte beaucoup, beaucoup de blé, par exemple vers l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le Nigeria, qui sont quatre pays qui ne produisent pas assez pour nourrir leur population. Ils sont donc obligés d'importer de la nourriture. Et concernant le vin, on exporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles. Un tiers du vin qui est produit en Europe est exporté, et surtout vers les États-Unis.
Ça, c'est la renommée du vin français, italien, espagnol. Ça fait quand même beaucoup d'exportations de vin.
Si, si. Mais ça représente peu de surface agricole comparé aux céréales. Parce qu'il y a beaucoup moins de surface occupée par les céréales que par le vin. On estime qu'on exporte 20% de notre production de céréales. Par contre, côté de ça, l'Europe importe l'équivalent de 20% de sa surface agricole en cumulé. C'est énorme.
La France aussi importe environ 20% de ce qu'elle consomme ?
Oui, c'est à peu près pareil. Même si on exporte beaucoup, on importe beaucoup.
Et pourquoi on exporte autant ?
Mais Thomas, il faut nourrir le monde.
Moi, t'es sûr de ça ?
Bah non, pas tout à fait. Disons qu'il faut participer à nourrir une partie du monde qui n'a pas la capacité agricole de se nourrir tout seul. Si on reprend l'exemple de l'Algérie. Eh bien, l'Algérie, c'est un excellent client pour la France. Elle a acheté en 2021 un quart du blé français. C'est un de nos meilleurs clients. Elle produit sur son territoire 40% de ce qu'elle consomme, en termes de nourriture, hein, au global. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle doit importer 6 repas sur 10 pour nourrir sa population de près de 45 millions de personnes.
On n'exporte pas que dans des pays qui ne peuvent pas se nourrir, pourtant.
Ah non, je te donne un autre exemple, le Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale situé sur l'équateur. C'est une ancienne colonie française. Il est rempli de ressources naturelles, le pays est recouvert par une immense forêt équatoriale, et là-bas, les sols sont très fertiles.
Ouais, tu jettes des graines et hop, ça pousse.
Ouais, c'est à peu près ça. Mais pourtant, malgré une capacité de production qui est importante, une fertilité incroyable, et une petite population, hein, de plus de 2 millions d'habitants, ben, le Gabon importe environ 60% de ce qu'il consomme.
Attends, c'est autant que l'Algérie, ça ?
C'est comme l'Algérie. C'est surtout la France qui lui vend de la nourriture, d'ailleurs.
Alors pourquoi cette situation aussi absurde ?
Ben, les politiques nationales n'ont pas développé l'agriculture. Il y a aussi un problème d'infrastructure. Les routes qui traversent le pays sont plus des pistes que des nationales comme on a chez nous. Ce qui rend très difficile le transport de marchandises. Et bien que la France participe économiquement au développement du pays depuis son indépendance en 1960, avec les aides au développement qui passent par l'Union européenne, par les agences françaises de développement, ben ça n'a rien changé.
Mais on a intérêt que ça change si c'est un bon client pour la France ?
Ben pas vraiment. C'est certain que nous avons une part de responsabilité dans le non-développement agricole de ce pays. Le Gabon pourrait être exportateur net de nourriture et il pourrait entretenir la résilience alimentaire de ses pays voisins. Mais au lieu de ça, il est importateur net et dépend entre autres de la France pour se nourrir. Autre exemple, quand on exporte de la nourriture dans les pays du Sud, où l'agriculture est surtout vivrière.
Une agriculture vivrière, là, je te stoppe, c'est quand c'est surtout des petites paysannes, paysans qui nourrissent le pays, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En gros, ils produisent de la nourriture sans machines, sans engrais, sans pesticides et tout à la main.
Ah ouais, donc ils produisent peu par rapport à notre agriculture européenne industrielle.
Ouais, c'est ça, leur agriculture est beaucoup moins productive que la nôtre, rapportée par travailleur. Et des travaux ont montré que quand un producteur, on va parler du riz, un producteur de riz au Sénégal par exemple, mais tu peux l'appliquer à n'importe quelle autre production qu'on peut avoir en commun dans les pays du Sud et dans les pays occidentaux, et ben quand un producteur de riz au Sénégal va vendre sa petite production sur le marché de son village, hein, à 2 km, il est concurrencé par le riz français ou le riz américain qui est aussi vendu sur ce même marché.
C'est dingue, c'est-à-dire pourtant le riz français ou américain, il a parcouru des milliers de kilomètres, il a demandé beaucoup d'engrais, de pesticides, de machines pour être produit comparé au riz sénégalais.
Mais malgré ça, on estime que le riz issu d'un pays occidental est 100 fois plus productif par agriculteur que le riz sénégalais. Donc son prix, il est moins cher, même à des milliers de kilomètres de chez lui. Et en plus, le producteur français touche des subventions que le paysan sénégalais n'a pas, grâce à la PAC européenne. Donc qu'est-ce qui fait l'acheteur sur le marché ? Eh bien, il va préférer acheter du riz occidental plutôt que le riz du producteur local, parce qu'il est moins cher.
Ouais, c'est un peu aussi exactement ce qui se passe chez nous, quoi. On est concurrencé par des produits étrangers, on en parlait dans un ancien podcast.
Exactement, on fait la même chose à l'étranger. Sauf que chez nous, la concurrence, ça va entraîner des problèmes économiques, des problèmes sociaux pour notre agriculture, on en a beaucoup parlé dans les médias. Mais dans les pays du Sud, ça peut amener de la précarité alimentaire. Les paysannes et les paysans sont les premiers concédés et les premiers concernés par la faim dans le monde. Et ils sont concurrencés par notre agriculture, donc ils ont beaucoup de mal à se nourrir parce qu'ils ont un manque de moyens financiers, tout simplement.
On reproduit en fait la base qui nous embête ici, c'est stupide.
Dit autrement, on importe et on exporte de la concurrence, mais ces exportations rapportent de l'argent aux filières européennes et nous permettent d'avoir une balance commerciale positive.
Bon, ok, mais Rémi.
Oui, Thomas.
Question à 1000 euros là.
Quel suspense.
Est-ce qu'on a besoin vraiment d'importer autant en France ou en Europe ?
Chaque Européen gaspille près de 130 kilos de nourriture par an en moyenne. Diminuer le gaspillage, c'est diminuer une partie des importations. Mais c'est pas tout. 65% de ce qui est produit sur le sol européen sert à nourrir des animaux. Alors, c'est sûr, sur certaines de nos terres, on ne peut pas mettre autre chose que des prairies. Dans les montagnes, par exemple. Et ces prairies, elles servent à nourrir des animaux herbivores, comme les vaches, les brebis. Mais les poules et les cochons, eux, ils consomment directement des terres qui peuvent nourrir les humains, puisqu'ils mangent exactement la même chose que nous, des céréales.
Ah, on a quand même besoin d'avoir des animaux pour avoir du fumier, du lisier et aussi qui nourrissent les plantes et le sol.
Ah oui, tu as raison. Supprimer l'élevage, c'est stupide. Mais ils consomment quand même 2/3 de ce que produit notre agriculture. C'est trop. Donc moins de production et de consommation de produits animaux, pas simplement de viande, mais de produits animaux, c'est moins d'importation.
Ouais, donc en fait, au niveau de l'élevage, il faut surtout le réorganiser en diminuant le nombre d'animaux et surtout les poules et les cochons.
Entre autres. Il y a autre chose, c'est pas tout. Quand tu parles d'élevage, on peut aussi parler de viande. T'as entendu parler du CETA ?
L'accord de libre-échange là, qu'on a conclu avec le Canada ?
Oui, c'est ça. On importe de la viande canadienne et on leur exporte de la viande européenne. Dans les faits, on est plus gagnant qu'eux parce qu'on leur exporte plus qu'ils nous en vendent.
Ouais, enfin, les éleveurs et éleveuses, ils ont déjà du mal à vivre. Donc si en plus, on les concurrence avec de la viande étrangère, ça va pas aider, quoi.
Eh oui, surtout si elle est moins chère. Donc si on veut renforcer notre souveraineté et diminuer nos importations, il faut qu'on arrête d'importer ce que l'on exporte.
Ouais, surtout si nos exportations concurrencent nos agricultrices et agriculteurs.
Et dernière chose, pour diminuer nos importations, il faut qu'on produise ce que l'on importe.
Peut-être qu'avec le changement climatique, on va pouvoir faire pousser du cacao bientôt.
Ah non, c'est pas possible parce qu'il fera peut-être plus chaud, mais il fera pas assez humide pour le cacao.
Ah.
Mais on pourrait produire et arrêter d'importer des patates douces, des myrtilles, des kiwis, de l'aubergine, des pastèques, des oignons, des tomates, des mandarines, des concombres. La liste est longue.
C'est super, mais en fait, il y a plein de pistes pour arrêter d'importer autant. Je me demande quand même si on a besoin d'exporter autant aussi. Ça consomme beaucoup de carburant d'envoyer des céréales à l'autre bout du monde.
Ah oui, surtout que c'est des gros bateaux qui partent remplis de centaines de tonnes de céréales, ça consomme énormément d'énergie. Mais tu as déjà la réponse, Thomas. Ça dépend de ce que l'on exporte et où on l'exporte. Si on arrête d'envoyer de la nourriture au Maroc, en Algérie ou en Égypte, ben on peut déstabiliser ces pays et provoquer demain des mouvements sociaux comme les émeutes de la faim qu'il y a eu en 2007 et 2008.
Et ouais, et même des mouvements de population qui vont, par exemple, devoir partir de chez eux.
Sans oublier que notre capacité d'exportation est une force géopolitique. On a moins de chances de faire la guerre à la Chine si elle a besoin de nous importer des aliments.
Ouais, c'est vrai que le commerce mondial peut limiter les risques de conflits.
Mais bon, il faut qu'il serve ce commerce. Il faut qu'il serve un vrai besoin et qu'il n'engendre pas de distorsion de concurrence.
Ouais, en fait, c'est un peu une super arme, quoi, l'exportation de nourriture.
Ah bah surtout si tu commerces avec des pays qui structurellement ont besoin de toi pour se nourrir. On parlait de l'Égypte tout à l'heure, qui importe 60% de ce qu'elle consomme. Elle importe surtout son alimentation de Russie. Mais une telle dépendance ne lui permet pas de dire ou de faire ce qu'elle veut avec la Russie.
Une Europe souveraine, c'est une Europe qui a moins de chances d'être en guerre et d'être influencée par d'autres puissances étrangères.
Être souverain et commercer un peu permet d'être en paix.
Je me disais, Rémi, avec le changement climatique, là, les rendements, ils vont pas forcément baisser en Europe ?
Oui, notre production va diminuer.
Donc demain, on pourra moins exporter ?
Très probablement.
Et notre sécurité alimentaire, elle est fragile.
C'est un peu le résumé des 4 derniers épisodes.
Donc si on est fragile, qu'il y a des menaces qui pointent leur bout de leur nez, changement climatique, tensions géopolitiques, prix de l'énergie en hausse, par exemple, il va falloir...
Transformer notre modèle alimentaire, par exemple.
Ah, on doit aussi faire du commerce autrement, non ?
Exactement. Il faut qu'on... On a besoin, en fait, de protéger notre agriculture en important moins et en important moins de concurrence.
Et on a aussi besoin de protéger les agricultures des pays, des autres pays, pour qu'eux aussi développent leur résilience.
On a besoin de moins dépendre des autres, donc moins consommer d'énergie, d'engrais, de pétrole, etc., etc. Si on est obligé demain de continuer à exporter au Gabon pour qu'il puisse se nourrir, alors que si lui est résilient, bah en fait, nous, on va aussi gagner en résilience. Donc on a besoin de rester fort géopolitiquement pour limiter l'ingérence et les risques de conflit avec d'autres pays et d'autres superpuissances. On a parlé de la Chine, de la Russie, on peut possible mentionner les États-Unis, l'Inde, etc.
Ouais, il faut qu'on renforce la souveraineté alimentaire de l'Europe et finalement en participant aussi à renforcer celle des pays du Sud.
Simple à dire, simple à comprendre, mais quand même un peu complexe à faire.
Ouais, on va prendre le temps d'expliquer comment on fait tout ça dans au moins les 4 prochains épisodes.
Et au moins, ce sera les 4 derniers épisodes. Donc oui, on va prendre le temps de développer tout ça. Et en attendant de savoir comment faire, vous pouvez, chers auditrices et auditeurs, retrouver cette chronique sur le site de Radio B.
Et puis comme d'habitude, eh ben, y a plein de sources pour étudier le sujet plus en détail.
On se retrouve le mois prochain.
Et à bientôt, c'était Thomas Grostette.
Et Rémi Pascal.
J'aime beaucoup les pommes, c'est un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostette et Rémi Pascal sur Radio B.